Afrique, les infos, à Washington.
Jean-Roger Dion, bonjour à tous. 14 militaires de Burkina Faso ont été tués mercredi dans une embuscade tendue par des combattants islamistes présumés, a déclaré jeudi le gouvernement à 10 jours d'une élection présidentielle dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, confronté comme ses voisins à la menace djihadiste. Cette embuscade, qui a fait aussi 8 blessés dans les rangs de l'armée, a eu lieu dans la province d'Oudalan, dans le nord du pays, près des frontières avec le Mali et le Niger. 3 opposants guinéens se sont rendus jeudi à la convocation de la police qui a lancé avec la justice une vaste opération d'arrestation et d'interrogatoire sur les violences autour de la récente présidentielle, a indiqué un de leurs avocats, Salifou Biavogui. Ces opposants guinéens entendus séparément par les policiers, selon leur avocat, figurent parmi les 6 opposants activement recherchés selon le parquet à la suite des violences électorales. L'opposition guinéenne dénonce une opération visant à la museler et à faire oublier le coup d'État électoral auquel s'est livré, selon elle, le président Alpha Condé. La réforme de la constitution algérienne a été approuvée lors du référendum du 1er novembre avec le taux de participation électorale le plus bas de l'histoire du pays, selon les résultats officiels définitifs proclamés jeudi soir par le Conseil constitutionnel. Le oui a recueilli 66,8% des suffrages exprimés contre 33,20% pour le non, a annoncé le président du Conseil, Kamel Fenich, qui s'est félicité d'un scrutin transparent et qui s'est tenu dans de bonnes conditions. Mais le taux de participation n'a atteint que 23,84%, soit le plus bas jamais enregistré en Algérie pour un scrutin majeur, un fiasco pour le régime selon plusieurs médias algériens. Les délégués libyens réunis en Tunisie ont débattu jeudi des contours d'un nouveau pouvoir au lendemain d'un accord préliminaire sur la tenue d'élections selon l'ONU, une timide avancée dans le but de résoudre le conflit dans lequel ce pays est englué. La prudence reste de mise, la Libye a plongé dans le chaos après la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 et les initiatives diplomatiques et accords des dernières années ont tous échoué à résoudre ce conflit. Toutefois, le forum de Gamart est la meilleure occasion pour mettre fin aux divisions, a estimé l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams. En Égypte, 7 membres de la force multinationale d'observateurs, FMO, dans le Sinaï, dont 5 Américains, un Français et une Tchèque, ont été tués jeudi dans le crash de leur hélicoptère au sud de la péninsule. Un précédent bilan faisait état de 8 morts, dont 6 Américains. Le groupe État islamique a revendiqué jeudi l'attaque à l'engin explosif commis la veille au cimetière non musulman de Jeddah en Arabie Saoudite. Sans fournir de preuves, plusieurs ambassades étrangères participaient à cette cérémonie. L'attaque est la 2e survenue à Jeddah en 2 semaines après celle d'un assaillant muni d'un couteau contre un vigile du consulat de France. C'était le 29 octobre dernier. Ici, aux États-Unis, des agences américaines chargées de la sécurité des élections ont indiqué jeudi n'avoir aucune preuve d'un piratage de la présidentielle, contredisant ainsi le président Donald Trump, que l'opposition accuse d'empoisonner la démocratie en refusant de reconnaître sa défaite. L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis, ont affirmé dans un communiqué commun plusieurs autorités électorales locales et nationales, dont l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, la CISA, qui dépend du ministère de la Sécurité intérieure. Et retour aux États-Unis des restrictions sanitaires en raison de la flambée des cas de COVID-19. La maire de Chicago, 3e ville la plus peuplée des États-Unis, a appelé jeudi ses 2,7 millions d'habitants à rester chez eux, sauf pour des déplacements essentiels, dont le travail et l'école, à partir de lundi, alors que l'épidémie de COVID-19 devient hors de contrôle aux États-Unis. À New York, plus grande ville américaine, les bars et restaurants seront soumis à un couvre-feu à partir de 22h et ce, à compter de ce vendredi. Jean-Roger Billon, à ce micro, restez en notre compagnie sur VOA Afrique. Dans un instant, la suite de ce journal.
La suite de nos informations ce vendredi 13 novembre. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a assuré hier que l'armée avait libéré une partie du Tigré, région dissidente, où elle mène depuis le 4 novembre une opération contre les autorités régionales qui a poussé plus de 11 000 personnes à fuir au Soudan voisin. Jacques Aristide.
Le chef du gouvernement éthiopien dit vouloir établir des institutions légitimes dans cette région du Nord, dirigée de longue date par le Front de Libération des Peuples du Tigré, accusé d'avoir attaqué deux bases de l'armée éthiopienne, ce que le Front dément. La zone du Tigré occidental a été libérée. L'armée fournit de l'aide humanitaire, a déclaré sur Facebook Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix. Le Premier ministre a également affirmé que l'armée avait pris le contrôle de la localité de Cheraro, dans la zone administrative voisine. Il accuse le front du Tigré de cruauté en indiquant que les corps de soldats exécutés, pieds et poings liés, y ont été découverts. Le front n'a pas réagi hier aux propos du chef du gouvernement. Pour sa part, l'ONG Amnesty International affirme que de nombreux civils ont été tués lors d'un massacre perpétré selon des témoins par des forces loyales au parti au pouvoir dans le Tigré. C'est la première fois qu'un grand nombre de victimes civiles est rapportée depuis le début de ce conflit.
Au Mali, les autorités de transition font face à une contestation grandissante. Un acteur majeur de la crise politique s'insurge à son tour contre la dernière manifestation de l'emprise des militaires. Le point avec Bagassi Koura.
Le mouvement dit du 5 juin a dénoncé l'ascension des militaires sur la transition sous un habillage civil. Il appelle à entrer en résistance. Le mouvement du 5 juin est une coalition hétéroclite qui a mené la mobilisation pour le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce sont finalement des colonels qui ont renversé Ibeka le 18 août. Le M5 réclame un rôle égal à celui des militaires durant la transition. Sous la pression de la CEDEAO, les putschistes se sont engagés à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois. Ils ont installé un président et un gouvernement et s'attellent à la mise en place d'un organe législatif, le Conseil national de transition. Mais voilà, le décret publié cette semaine pour la création de ce conseil donne 8 représentants au M5, 22 sièges aux militaires sur les 121 qui forment le conseil. Et c'est le vice-président, le colonel Assimi Goïta, qui valide la liste de ses membres. Ces décrets sont purement et simplement inacceptables, dit le M5, qui refuse de participer. Les partis de l'ancienne majorité aussi ont décidé de ne pas siéger au Conseil national de transition.
L'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings est décédé hier à 73 ans dans un hôpital d'Accra suite à une courte maladie. Il avait dirigé le Ghana pendant près de 20 ans et était devenu une figure charismatique de l'Afrique. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Un monument s'est éteint, c'est une immense perte pour le Ghana, a déclaré le président Nana Akufo-Addo. Les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays pour un deuil national de 7 jours à partir de ce vendredi. La campagne pour la présidentielle prévue pour décembre est suspendue, a précisé le chef de l'État. L'Afrique a perdu un pilier du panafricanisme et un charismatique homme d'État, a réagi sur Twitter le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Né le 22 juin 1947 à Accra d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, Jerry Rawlings entre en 1967 à l'Académie militaire qu'il quitte un an plus tard pour entrer dans l'armée de l'air où il excelle comme pilote. Connu pour son image de jeune révolutionnaire intègre, il s'empare du pouvoir à deux reprises, à 32 puis à 34 ans. En 1981, il devient chef du Conseil national provisoire de défense pendant 11 ans, avant de céder au début des années 1990 à la vague du multipartisme. Il est élu président en 1992, puis réélu en 1996. Après plus de 19 ans au pouvoir, il tire sa révérence en 2000 avec l'élection de John Kufuor.
C'est maintenant l'heure de la Minute Écho avec John Lindon.
Le Nigeria a ratifié hier la zone de libre-échange continentale censée devenir l'espace commercial le plus peuplé du monde. L'annonce a été faite sur Twitter par le gouvernement. Ce marché commun qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2021 ambitionne de faire progresser les échanges intra-africains pour doper les économies du continent. Sur les 55 pays africains, 54, sauf l'Érythrée, ont déjà signé cet accord lancé officiellement en juillet 2019. Tous ne l'ont pas encore ratifié. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire français BNP Paribas, a enregistré une perte de 3,612 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2019. Cela contraste nettement avec 2018 où cette banque avait réalisé un bénéfice de plus de 9 000 milliards de francs CFA. Les cinq États de l'UEMOA ayant sollicité le marché régional ont levé entre le 27 octobre et le 10 novembre 2020 un montant global de 683 milliards de francs CFA au titre des bons sociaux COVID-19. Le montant global levé par les États lors de cette phase représente une baisse de 17,7% comparée à la deuxième vague. Ils avaient en effet emprunté 831 milliards de francs CFA entre juillet et août 2020 contre 1200 milliards en avril et mai.
La page de sport à présent avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Les matchs de la troisième journée des éliminatoires de la prochaine CAN se poursuivent sur le continent. Le Mali reçoit ce soir la Namibie au stade du 26 mars de Bamako. Selon le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magasouba, la Namibie est un adversaire de taille que le Mali connaît déjà. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
C'est un match qui s'annonce difficile à en croire les propos du sélectionneur national des Aigles du Mali. Pour Mohamed Magasouba, la Namibie est un adversaire coriace et redoutable, parce que par le passé, Mali-Namibie n'a jamais été un match facile. Il faudra donc s'attendre à une rencontre de titans. Bref, ce sera un match époustouflant et engagé des deux côtés, a indiqué Magasouba. Pour le sélectionneur du Mali, les Aigles sauront relever le challenge qui les attend. En clair, il s'agira pour eux d'arracher les 3 points à domicile au bonheur de leurs supporters qui seront sévrés de leur équipe pour cause du coronavirus, puisque le match se jouera à huis clos. Si le Mali gagne demain, lors de cette troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, ce sera une large option vers la qualification pour la phase finale. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
À suivre aussi ce soir, Niger-Éthiopie, le Nigeria reçoit la Sierra Leone, Afrique du Sud, Sao Tomé et Principe, ou encore Maroc-Centrafrique, et la Tunisie accueille la Tanzanie. Hier, le Cameroun, pays hôte de la prochaine CAN, a corrigé le Mozambique 4 buts à 1, 1-0 pour l'Ouganda devant le Soudan du Sud, 0-0 entre le Cap-Vert et le Rwanda, 2-0 pour le Congo face à l'Eswatini, 2 buts à 1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire face à Madagascar. Le Ghana a disposé du Soudan 2-0, 2-1 pour la Zambie qui recevait le Botswana, 3-1 pour les Algériens devant les Zimbabwéens. Même score pour le Burkina Faso qui accueillait le Malawi avec un doublé de l'attaquant burkinabé de l'Ajax Amsterdam, Franck Lassina Traoré, qui jouait son premier match au stade du 4 août de Ouagadougou, 2 buts à 1 pour le Gabon face à la Gambie.
VOA Afrique, page de sport signée Yacouba Ouedraogo. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, de nouveau avec vous, Jean-Roger Pion, à présent les dossiers du jour. Au Mali, la classe politique rejette la clé de répartition du Conseil national de transition, le CNT, qui doit jouer le rôle d'Assemblée nationale pendant la période de transition. Les partis politiques ne sont pas d'accord sur le fait que c'est le vice-président de la transition qui examine les dossiers des candidats avant d'arrêter la liste définitive des membres du CNT. De Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
Le Conseil national de transition CNT tarde à voir le jour. Le décret portant clé de répartition accorde 22 sièges sur 121 aux militaires contre 11 pour la classe politique. Al-Moubachar Aïdara, gestionnaire.
Nous sommes surpris par rapport à la position des militaires dans cette transition et qui sont plus majoritaires que la population. Nous avons pensé que le Mali avait un problème et qu'ensemble les Maliens peuvent se donner la main pour régler ces problèmes. Mais si ça fait un parti pris, nous sommes vraiment surpris.
Sur le décret fixant les modalités de désignation, il est écrit que c'est le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui va examiner les dossiers au double du quota proposé à chaque entité, avant d'arrêter la liste définitive. Imam Oumarou Diarra, membre du comité stratégique du M5-RFP.
Le M5-RFP, plus que jamais, reste conscient que les militaires ont un autre rôle à jouer dans cette période transitoire, plus que d'occuper des postes stratégiques comme l'Assemblée. Donc aujourd'hui, le M5-RFP prend l'opinion nationale et internationale en témoin pour dire que cette clé de répartition, nous, on ne se reconnaît pas dedans.
À l'opposé du M5-RFP, les mouvements et associations proches des militaires souhaitent la mise en place rapide du CNT, à l'image de Amadou Maïga.
Je suis de ceux-là qui pensent que cette clé de répartition est impeccable, en ce sens que cette révolution doit embrasser le peuple organisé en pouvoir militaire, en pouvoir civil et aussi en pouvoir politique. Et cette clé de répartition nous prouve en suffisance que le peuple est largement représenté à travers ses composantes, femmes et jeunes, aux autorités traditionnelles. Et nos autorités confession religieuse sont largement représentées.
Les partis éléments de l'ancien premier ministre Moussa Mara ne participera pas au CNT. Amidou Doumbia, membre de Yelema.
Le CNT, dans sa configuration actuelle, c'est comme si on demande aux partis politiques de compétir et d'envoyer des CV pour pouvoir y intégrer. Nous estimons que nous pouvons être utiles à notre pays sans autant être membre dans un gouvernement ou dans un conseil de transitoire. Donc, on a pris la décision de ne pas y siéger.
Pour le vieux syndicaliste Oumar Dibarou Diallo, les militaires veulent s'installer au pouvoir.
Moi, j'en déduis un accaparement des pouvoirs par les militaires. Quand ils venaient, ils disaient qu'ils étaient venus parachever une lutte que les peuples maliens avaient commencée. Si c'est le cas, en principe, ils devraient se retirer pour remettre le pouvoir aux civils, quoi. Ce n'est pas le cas. On a vu maintenant qu'ils ont d'autres intentions. Ils veulent effectivement mettre la main sur l'appareil d'État. On est en train de comprendre qu'ils sont en train de s'installer. Ici, vous avez remarqué. Le vice-président, c'est lui qui a nommé le président de la transition, c'est lui qui a nommé le premier ministre. Donc, même le président de la transition, si vous voulez, est à la merci du vice-président qui décide et qui lui amène des choses pour signer.
En attendant la mise en place du CNT, le président de la transition a entamé aujourd'hui une mini-tournée sous-régionale. La première étape était la capitale ghanéenne, Accra, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, première rencontre mercredi entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, depuis l'élection présidentielle du 31 octobre, contestée par l'opposition. Ce tête-à-tête visait à tenter de mettre fin aux violences électorales qui ont fait 85 morts en 3 mois. Pour analyse, Yacouba Ouedraogo, agent à Abidjan, l'analyste politique, André-Sylvain Konan.
La Côte d'Ivoire, après la rencontre, se porte mieux. En tout cas, mieux par rapport à toutes ces semaines qui se sont écoulées depuis l'annonce de la candidature pour un troisième mandat manifestement illégal du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, l'on ne m'a pas encore signalé des incidents majeurs. Donc, je pense que c'est la conséquence de cette rencontre.
Une rencontre pour briser la glace, disent les deux. Faut-il croire réellement à un apaisement définitif? Des violences.
Alassane Ouattara a dit c'est une rencontre pour briser la glace. Henri Konan Bédié a dit c'est une rencontre pour briser le silence. Ce sont deux choses totalement différentes qui attestent de ce que la crise de confiance demeure. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'allons pas apporter un blanc-seing à cette rencontre qui est importante mais pas essentielle, d'autant que ce qui est essentiel c'est le dialogue inclusif.
Alassane Ouattara a déjà prêté serment pour son troisième mandat controversé. Quel genre de compromis pourrait dégager les deux camps?
Les revendications de l'opposition partent donc de l'annulation du scrutin pour certains au renforcement des acquis démocratiques, de la gouvernance démocratique pour d'autres. Et de ce fait, je pense que les discussions tourneront autour des revendications de l'opposition qui sont entre autres la libération des prisonniers politiques, la levée du blocus de certaines résidences. J'ai cru lire que certains blocus de résidences d'opposants ont commencé à être levés effectivement. La transparence de la commission électorale indépendante et bien d'autres sujets. Mais aussi des revendications dont la renonciation donc à ce Conseil national de transition manifestement anticonstitutionnel et illégal de l'opposition.
Derrière Henri Konan Bédié, il y a des poids lourds, hein, comme Laurent Gbagbo, Pascal Affine-Guessant, il y a Guillaume Soro, il y a Charles Blé-Boudé. On sait que c'est très tendu entre Gbagbo, Charles Blé-Boudé et Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Est-ce que Bédié peut être le porte-voix,
de ces personnalités-là auprès de Ouattara.
Cela est fort possible. Dans tous les cas, Laurent Gbagbo a déjà déclaré qu'il soutenait la coalition de l'opposition amenée par Henri Konan Bédié. Guillaume Soro est déjà, je vais dire, en partenariat avec Henri Konan Bédié. Pascal Afinguessan a été jusque-là très récemment le porte-parole du Conseil national de transition présidé par Henri Konan Bédié. Cela ne devrait donc pas être un vrai problème pour l'opposition. Ce qui serait un problème, c'est que le PDCI d'Henri Konan Bédié cherche peut-être à faire cavalier seul. Mais pour nous, cette discussion ne doit pas seulement tourner autour des dirigeants politiques qui ont contribué quand même à nous mettre dans cette situation, parce que le troisième mandat d'Alassane Ouattara, il faut bien comprendre que c'est parti d'arrangement entre anciens alliés du RHDP aujourd'hui devenus adversaires. De ce fait, la discussion doit aussi inclure la société civile dont les hommes libres et indépendants, les intellectuels que nous sommes.
André Sylvain Konan, analyste politique, joint à Abidjan, Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le conflit militaire entre l'Éthiopie et la région dissidente du Tigré fait craindre une guerre civile dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. La crise soulève aussi des inquiétudes sur la propagation de l'instabilité régionale. Si ce conflit perdure, le reportage de Mohamed Youssouf à Nairobi. Récit John Lydon.
Le conflit entre le gouvernement fédéral éthiopien et les combattants du Front de libération du peuple du Tigré entre dans sa deuxième semaine. Quelques 8000 Éthiopiens se sont réfugiés au Soudan et les agences humanitaires attendent davantage dans les prochains jours. Le conflit a commencé lorsque des combattants du Tigré ont attaqué une position du gouvernement fédéral dans ce que le gouvernement a qualifié de tentative de pillage d'un stock d'armes et d'équipements. Le premier ministre Abiy Ahmed a aussitôt ordonné une action militaire pour mettre fin au soulèvement. Comfort Hero est le directeur du programme Afrique à International Crisis Group.
Right now, what we see is more fighting.
À l'heure actuelle, ce que nous voyons, c'est davantage de combats, des positions plus tranchées des deux côtés. Même si les forces tigréennes sont écrasées et maîtrisées, vous pouvez vous attendre à une forte résistance, une résistance de type guérilla, et c'est possible. Nous ne voyons pas les Tigréens être gouvernés de sitôt depuis Addis, et nous pourrions envisager une situation longue et prolongée.
Ces tensions montent depuis septembre, lorsque la région du Tigré, l'un des 9 États fédéraux de l'Éthiopie, a défié en organisant des élections locales que le premier ministre Abiy Ahmed avait reportées en raison de la pandémie de COVID-19. Il y a eu peu d'informations provenant de la zone de conflit et des difficultés à évaluer les besoins humanitaires, car le gouvernement a coupé l'accès à Internet. Thomas Murphy est un analyste du renseignement et des risques de sécurité en Afrique subsaharienne. Pour lui, l'échec du gouvernement à vaincre les combattants tigréens pourrait causer beaucoup plus de problèmes au pays.
La probabilité d'un coup d'État augmente certainement si l'armée ne parvient pas à vaincre les combattants du Front de libération du peuple du Tigré. Cela viendrait probablement de factions qui, auparavant, ont été très influentes au sein du gouvernement. En termes d'implication plus large, l'Éthiopie est actuellement dans un état très fragile et je pense que la probabilité que les tensions s'intensifient ou se détériorent en poussant des conflits impliquant d'autres acteurs ethniques à travers le pays est très élevée.
Dimanche, le premier ministre a nommé un nouveau chef de l'armée et du renseignement pour mener la guerre dans la région du Tigré. L'expert politique Aolalo estime que vouloir régler les problèmes du pays avec des armes à feu pourrait le diviser encore plus.
C'est déjà un pays très divisé sur des bases ethniques. La Constitution donne aux gens le droit à l'autodétermination avec la capacité de déterminer leur statut politique et culturel, mais aussi le droit d'être un État indépendant. Ainsi, la décision du Premier ministre de régler un différend politique par une confrontation armée conduirait probablement à la désintégration de l'État éthiopien en plusieurs petites républiques, ce qui, bien sûr, aurait une ramification considérable non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour la Corne de l'Afrique.
En 2019, Abiy Ahmed a remporté le prix Nobel de la paix pour ses efforts de mettre fin aux hostilités entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il a aussi arbitré les différends au Soudan du Sud, au Kenya et en Somalie. mais il a cependant exclu les pourparlers avec les dirigeants du Tigré, alors que selon International Crisis Group, seul un dialogue national complet pourrait sauver l'Éthiopie et la région.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, la campagne du président Donald Trump a lancé cette semaine une bataille juridique pour arrêter la certification des résultats des élections en Pennsylvanie. Le président refuse toujours d'accepter sa défaite face à Joe Biden. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Récit Lionel Gaïma.
Le 11 novembre, pour commémorer l'armistice, le président Donald Trump a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d'Arlington, tandis que le président élu Joe Biden a visité Philadelphie, le mémorial de la guerre de Corée. Aucun d'entre eux n'a fait de remarque. Trump refuse de concéder la victoire à Biden plus d'une semaine après l'élection présidentielle. Le président a même déclaré sur Twitter « Nous allons gagner ». Monsieur Trump est donné gagnant dans l'État de l'Alaska, ce qui lui donne maintenant 217 grands électeurs contre 279 pour Biden. Un candidat a besoin d'un minimum de 270 grands électeurs pour remporter la course à la Maison-Blanche. Trois États n'ont pas encore affiché des résultats complets, à savoir l'Arizona, la Géorgie et la Caroline du Nord. En plus de diverses contestations judiciaires déjà déposées dans plusieurs États alléguant une fraude électorale, la campagne Trump a lancé un nouveau procès pour bloquer la certification des résultats des élections en Pennsylvanie. Paul Schiff Bergman est professeur de droit à l'Université George Washington.
Il est possible que s'ils soulèvent assez de poussière, suffisamment d'allégations et d'incertitudes, ils pourraient convaincre les législatures contrôlées par les républicains de faire asseoir une liste rivale de grands électeurs qui seraient opposés à ce que les votes dans l'État et les électeurs de l'État ont réclamé. Ce serait une étape extrême, ce serait vraiment un coup d'État contre le peuple américain et une destruction du processus démocratique.
Par ailleurs, deux États, le Wisconsin et la Géorgie, se dirigent vers un recomptage des bulletins. Brad Raffensperger est secrétaire d'État de la Géorgie.
La marge étant si étroite, il faudra un recomptage manuel complet dans chaque comté. Cela va contribuer à renforcer la confiance. Ce sera un audit, un recomptage et une nouvelle analyse en même temps.
Le camp Trump a célébré cette annonce avec le directeur de la communication de la campagne, Tim Martel, en déclarant « C'est une première étape importante dans le processus visant à garantir que l'élection était juste et que chaque vote légal était compté ». Jusque-là, aucune des batailles juridiques engagées par la campagne Trump n'a fourni des preuves de ces allégations de fraude, ce que, de leur côté, les démocrates ne manquent pas de souligner. Chris Murphy, sénateur démocrate.
Nous sommes une semaine après le scrutin et le président cherche toujours désespérément des preuves de fraude. Il ne les trouvera pas parce qu'elles n'existent pas.
Même si Trump réussit dans certains de ses procès et ses demandes de recomptage, les analystes estiment qu'il est peu probable que cela puisse annuler la victoire de Biden. Rob Stutzman, stratège républicain.
Ce que les médias de gauche comme de droite ont conclu semble raisonnable, à savoir qu'il est impossible pour Trump de combler le déficit auquel il est confronté dans des États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et le Nevada.
Selon la loi, les grands électeurs des États doivent officiellement voter pour le président et le vice-président à la mi-décembre.
Écoutez, VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Lyon à ce micro, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour le suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous. Au revoir.